et bienvenue à Portrait Vivant, l'émission radio qui esquisse un tableau en mouvement de la communauté artistique de l'École d'art de Sutton. Ensemble, allons à la rencontre des artistes, des jeunes créateurs et des œuvres qui façonnent cette institution incontournable du paysage culturel de l'Estrie. Je m'appelle Ayona, artiste en art visuel. Mon parcours m'a menée aux quatre coins du monde, guidée par une quête d'apprentissage et de rencontre. J'ai fini par m'installer ici, en Estrie, où je découvre une véritable boîte au trésor de personnes engagées, passionnées par leur travail, avec des valeurs d'entraide et de coopération. Aujourd'hui, notre épisode est consacré au jardin et aux expositions botaniques qui s'épanouissent au cœur de l'École d'art de Sutton. Découvrez avec nous comment les artistes, les éducateurs, les fermiers locaux et les enfants collaborent pour faire de ces jardins un lieu d'émerveillement, d'apprentissage et d'expérimentation artistique. Notre première invitée, Anne-Marie Lavigne, est la fondatrice visionnaire de l'École d'art de Sutton. Animée par une profonde admiration pour la nature et un engagement envers la communauté, elle a imaginé des jardins conçus comme des constellations végétales, où chaque plante et chaque visiteur tient une place précieuse.
Les jardins sont conçus comme une constellation parce qu'on a été chanceux de travailler dans un lieu qui accueillait le lait de tous les animaux, toutes les vaches de la région ont partagé ce qu'ils voulaient offrir de plus précieux à leur propre bébé. L'humain s'en sert pour se nourrir, pour rester en santé, puis c'est vraiment un cadeau extraordinaire. Donc cette idée-là de la Voie lactée à travers l'environnement entourant l'École d'art, il y a vraiment une rivière absolument magique qui coule et qui devient très forte quand c'est la pluie ou le printemps et très douce quand c'est la saison estivale, les jours d'été. Il y a très peu d'eau qui coule, donc on peut marcher la rivière comme un grand chemin. Le jardin, qui est constitué de bacs qui nous ont été offerts par Techno-Alpin, ont été convertis en structure accueillant des plantes, comme une galerie à ciel ouvert. Et le positionnement a été fait par Rebecca Brivica, qui a créé une forme géométrique. Donc, vu du ciel, on a un dessin. Et je crois que c'est important de s'imaginer comme si on était des géants et qu'on regardait l'École d'art et qu'on regardait les jardins et les fermes environnantes. C'est important d'avoir cette vue-là du ciel, pas juste la vue vers les nuages et les étoiles, mais aussi comme si on habitait les étoiles puis qu'on regardait la Terre de très haut. Je pense que c'est un jeu de perspective vraiment intéressant. Et l'idée du bac qui reprend aussi l'échelle de grandeur, c'est-à-dire le tout petit est aussi important que le tout grand. Donc oui, les grandes fermes, mais les toutes petites fermes sont tout aussi importantes. Et la plante que le fermier chérit est très, très précieuse pour nous. Donc, on est allé rencontrer 15 fermiers de la région pour leur demander pour quelles plantes ils avaient un amour particulier. Et étonnamment, chaque fermier a eu une réponse différente. Donc, entre le poivron de Michel Descaries et l'aubergine de Ian Gordon, on a vraiment découvert que chaque fermier affectionne tout particulièrement une des plantes de son jardin potager. C'est ça. C'est un jeu intéressant de se dire que les bacs peuvent accueillir à chaque année un artiste ou un concept qui explore le monde vivant. L'année suivante, on avait travaillé également avec une artiste qui utilise les plantes comme matière première pour sa création à travers ses couleurs, les pigments. Donc, les plantes génèrent des couleurs Et donc, on a eu le bonheur de travailler avec Amélie Bélanger. Et c'est vraiment un monde fascinant. La transformation d'une plante pour qu'elle puisse faire vibrer les artistes qui s'en servent pour leurs œuvres personnelles.
Nous accueillons Julie Valois, artiste multidisciplinaire et médiatrice culturelle, passionnée par le mouvement et la danse. Julie a su allier sa pratique artistique à une exploration profonde du vivant, développant des camps et des expositions botaniques à l'école d'art. Elle partagera avec nous comment les jardins deviennent un espace de danse, de rencontres culturelles et d'apprentissage collectif, créant ainsi un lieu de connexion authentique.
Donc, j'ai un parcours en danse parce que le mouvement, c'est venu comme une nécessité dans ma vie, mais aussi dans un regard par rapport à la société, dans la manière qu'elle est construite actuellement, puis un grand besoin de bouger aussi au niveau du système d'éducation, c'est-à-dire d'amener des espaces qui sont libres, des espaces qui sont grands, des espaces qui permettent la créativité puis de la relation à l'autre. Donc, j'ai été très motivée par ce médium-là, en fait, parce que j'ai vu que ça permettait justement un changement. Donc, j'ai fait mes études en ce sens-là, en enseignement de la danse au primaire et secondaire et préscolaire. Puis, j'ai fait aussi un parcours en interprétation de la danse, toujours à l'Université du Québec à Montréal. Puis, par la suite, ma vie m'a toujours placée dans une double position d'artiste pédagogue à travers tous mes projets. Et j'ai développé aussi toute une expérience en médiation culturelle auprès des compagnies de danse jeunes publics au Québec. Et puis ça a été vraiment un beau moment parce que d'aller à la rencontre des jeunes qui n'ont pas nécessairement accès à la culture dans différents milieux, puis à l'école. À l'école, c'est vraiment aussi un lieu où ce que la société, ben en fait, c'est une société, c'est la société des enfants. Et donc, ça leur permettait de vivre vraiment des beaux moments, puis de se découvrir aussi. Ça a été vraiment marquant. Puis avec la pandémie, avec les retours vers l'écran, j'ai eu un besoin de me connecter au vivant puis à la terre autrement. Donc, c'est comme ça que j'ai été amenée à jardiner de manière un peu autodidacte en étant engagée sur des fermes qui avaient des projets de permaculture, entre autres. Donc, j'ai appris par les livres et par mentorat, par des gens qui sont passionnés de l'agro-bio-alimentaire et qui sont très engagés aussi envers leur communauté puis leur pratique. Donc, c'est comme ça, c'est les jardins qui m'ont amené à travailler à l'école d'art de Sutton. Donc, oui, pour un projet qu'on avait fait avec l'Office franco-québécoise pour la jeunesse. Donc, c'était une exposition que j'ai organisée conjointement avec Anne-Marie aussi et avec les maraîchers et les producteurs locaux. Donc, c'était une exposition où on présentait les plantes préférées de des acteurs-là. Donc, c'était une manière aussi de présenter leur travail et leur amour pour les plantes, pour les végétaux, et de mettre en lumière aussi qui ils étaient pour le public, donc d'apprendre à les connaître, où ils étaient situés, puis dans quoi ils se spécialisaient. Ça m'a amené aussi à rencontrer plein de gens dans la région, donc ça m'a permis de connecter aussi avec toutes ces personnes-là dans la région de Promiscouat.
Je pense que tu as aussi collaboré récemment avec une fermière pour l'expo.
Oui, l'exposition des plantes, donc avec Stéphanie Wang qui a coécrit le livre « Légumes asiatiques ». Donc, il y a eu une exposition qui a été créée, oui, l'été passé à partir des légumes asiatiques qu'elle cultive et qu'elle présente en fait dans son livre. Donc, l'exposition des plantes, c'est une exposition à ciel ouvert. C'est une exposition qui est en mouvement. Donc, le jardinage, c'est selon moi une manière de faire bouger le vivant. C'est une manière de danser aussi. Donc, ça, c'était le dernier projet de l'exposition des plantes, entre autres. Donc, à l'École d'art, c'est tout un travail de collaboration, c'est un travail d'équipe, c'est un travail d'investissement de cœur, de passion, de volonté de rencontre avec le public et de présenter les merveilleuses personnes qui œuvrent dans notre région sur différents médiums, là, je me permets de dire. Dans le cadre de cette exposition-là, c'est lorsque Stéphanie Wang a fait son lancement de livre au dernier petit salon, Asian Vegetable. Puis on a remarqué qu'elle présentait 15 légumes et nous avions 15 boîtes à l'exposition des plantes. Donc, elle a accepté de faire partie de ce projet-là. Donc, elle nous a permis d'utiliser, en fait, son livre pour s'inspirer. Puis ce projet elle a été montée en collaboration avec toute l'équipe de l'École d'art, c'est-à-dire tout le monde s'est
impliqué. Tous les talents.
Tous les talents.
C'est vraiment intéressant. Le jardin de l'École d'art est un lieu tellement vivant, coloré. Et puis l'été, on voit ça plein d'enfants. Est-ce que c'est quelque chose qui t'inspire pour ton camp d'été? Est-ce que tu fais aussi un camp sur le jardin, c'est
oui,
ça?
Oui, mais je pense que ce qui est une des raisons pour laquelle je connecte autant avec l'École d'art, c'est l'aspect de la rencontre, entre autres. C'est cette possibilité-là, à travers les arts, à travers la culture, d'aller à la rencontre de l'autre. Mm-hmm. Je crois que le jardin, c'est un lieu de rencontre. C'est un lieu de rencontre aussi pour plusieurs communautés, plusieurs dans différentes cultures aussi. Donc, c'est une rencontre aussi avec la nature, avec le vivant. D'ailleurs, dans le cadre de mes camps, du camp jardin que j'anime depuis maintenant 3 ans, la manière que je l'organise, c'est un camp où j'invite des spécialistes. Donc, j'agis plus à titre de programmatrice ainsi que de médiatrice culturelle. Donc, chaque jour, il y a un artiste du vivant qui participe au camp, qui rencontre les enfants, qui leur parle de sa passion, qui partage, en fait, là, je dis on parle, mais qui partage son expérience à travers des activités qu'il propose, des activités toujours de création, de découverte, d'expérimentation. Donc, je suis très inspirée, justement, de donner cet espace-là à ces artistes-là, je me permets de dire, là, pour venir partager avec les enfants.
On a des très beux clips de musique sur cet épisode de collaborateurs de l'École d'art de Satine. Donc au début, on avait les jazzistes Paul Morin et Norman Kerr, ainsi qu'un clip par Maryse Le Gagnard. On a aussi la musique de film documentaire d'Alain Auger, magnifique. C'est un collaborateur et ami de longue date de l'École d'art de Satine. Et on vient d'écouter la danse allemande et écossaise de Schubert, interprétée par Mathieu Godet.
Vous écoutez Portrait vivant, une émission de CIDI 99.1 FM et de l'École d'art de Sutton.
La voix des enfants est très importante pour nous ici à l'École d'art de Sutton. Et maintenant, ma collègue Joa discute avec Indiana, 8 ans.
Mon nom, c'est Indiana. J'ai 8 ans et je suis dans le camp jardin.
Qu'est-ce que les gens vont voir?
Des légumes qu'on a cueillis, des semences, nos œuvres et des bouquets de fleurs.
Puis qu'est-ce que t'as appris justement cette semaine-là, tu sais, que tu t'as retenu?
Les familles de légumes, des sortes de plantes.
Que t'as appris des nouvelles techniques d'or que tu savais pas?
Ouais.
Genre quoi?
Genre faire de l'or avec les plantes.
Ouais. Puis si t'avais un mot à dire pour décrire toute ta semaine, ce serait quoi?
Création, parce que on a fait plein de créations avec les légumes.
Stéphanie Wang, fermière et spécialiste de légumes asiatiques à la ferme Le Rizen de Frelisburg, est également avec nous. Elle nous parlera de ses projets passionnants, notamment l'exposition des légumes asiatiques qui a ravi les visiteurs et les jeunes artistes de l'École d'art de Sutton.
Bonjour, je m'appelle Stéphanie Wang, je suis fermière fondatrice de la ferme Le Rizen à Frelisburg. On a démarré en 2016 et puis on se spécialise en production et transformation de légumes asiatiques biologiques. En plus de ça, on fait aussi des activités d'éducation, d'ateliers à la ferme. Donc, notre travail, ça a été beaucoup de faire connaître ces légumes-là qui sont moins connus des gens. Et puis, à travers des projets comme l'exposition à l'École d'art, ça permet aux gens de s'approprier tranquillement un peu plus ces légumes-là qui poussent super bien dans notre climat, mais qui sont juste méconnus parce que on les trouve surtout en épicerie asiatique, qui sont juste près des grandes villes. Alors ici, en région, c'est comme vraiment impossible ou difficile à trouver autrement. Donc, nous, on en fait 30 à 40 différents légumes à chaque année, puis on les vend au marché, notamment au marché de Sutton et aussi à la ferme. Donc, c'est beaucoup de la mise en marché directe, ce qui nous permet de présenter ces légumes-là aux gens. Ils peuvent les goûter, les toucher. Puis c'est ça, avec l'exposition, qu'on voulait aller chercher les cinq sens. Donc, tu sais, aller jouer avec les textures, les couleurs, les odeurs, parce que ces légumes sont assez variés et très polyvalents en cuisine aussi et au jardin. Donc, il y en a qui préfèrent le climat frais, il y en a qui préfèrent la chaleur. Il y a vraiment une façon de s'amuser, c'est ça, autant en cuisine qu'au jardin, puis explorer des différentes choses. Puis c'est tous des légumes qui ont des bonnes valeurs aussi nutritives, riches en fibres et en vitamines. Donc, il y a vraiment juste des avantages à les découvrir. Puis dans le fond, de cultiver, c'est ça, la diversité, ça amène plus de résilience à tous les niveaux.
Pour les personnes qui sont en découverte de ces légumes-là, est-ce que tu pourrais nous donner quelques exemples des légumes qui ont été dans l'expo, qui pourraient être nouveaux pour des personnes qui voudraient les goûter ou peut-être même les planter chez eux?
Oui. Un qui est vraiment intéressant, c'est l'épinard de Malabar, parce que c'est un épinard qui va pousser toute la saison, qu'on plante une fois au printemps. Et après que les risques de gel soient passés, on va pouvoir le récolter sur les mêmes plants jusqu'à l'automne, jusqu'au premier gel. Alors, puis il y a habituellement pas de maladies ni d'insectes qui s'y attaquent. Alors, c'est comme une plante un peu qu'on adore au jardin, qui est quand même très productive, surtout l'épinard de Malabar vert, qui va avoir des grosses feuilles charnues qu'on peut poêler, qu'on peut réduire dans des potages, qu'on peut utiliser en fait comme épaississant, parce que c'est sûr qu'il y a une texture un peu mucilagineuse. Alors, c'est vraiment intéressant pour lier. Nous, on a une recette sur notre site web d'un gâteau sucré à l'épinard de Malabar. Alors, très intéressant.
Ouais.
Ensuite, un autre légume qui serait à découvrir, le loufah. Moi, j'adore le loufah. C'est un de mes légumes préférés parce que c'est tellement soyeux, c'est tellement doux, c'est très léger. C'est comme une longue courgette asiatique qu'on récolte à un stade jeune, comme à notre courgette. Et puis, quand il est très jeune, on n'a même pas besoin d'éplucher la peau, on peut tout manger, il n'y a pas de grosses graines à l'intérieur. Et puis, pour les gens qui veulent s'amuser, ben on peut planter le loufalis et attendre qu'il devienne mature sur le plan. Et puis, après ça, on peut faire sa propre éponge pour la graine.
Oui, je me demandais si c'était le même loufa exactement. Ouais. J'adore.
Ouais.
Ouais. Mais je savais pas qu'on pouvait le faire pousser ici. Donc c'est
Mais oui, ça pousse. Ouais. Ça, c'est un légume qui prend plus de chaleur. Alors nous, on le fait pousser dans un tunnel. Mais ça fonctionne très bien aussi à l'extérieur, au jardin. On le fait pendant plusieurs années. Là, ça fonctionne très bien. Alors, tous les conseils de culture vont se retrouver dans notre livre. Et puis, j'ai aussi mentionné que là, on commence nos expérimentations sur la production de semences. Donc, à partir de cette année, là, si vous venez nous voir au marché ou à la ferme, on va avoir des petits sachets de grandes semences comme nos piments gochugaru, aussi des semences de choisum, de gaylan. Alors, c'est super excitant, là, de voir tout le potentiel qu'on peut faire avec ces nouveaux légumes.
Ben, merci beaucoup, Stéphanie. C'était vraiment intéressant. Puis c'est aussi, je pense que c'est un travail important. Et puis, donc, c'est vraiment une expo qui a été aussi créée pour partager avec les enfants. Et est-ce que il y a des anecdotes qui t'ont touchée au jardin avec ton expérience avec les jeunes ou les personnes qui ont visité cette expo-là?
Oui, ben à la ferme, on a déjà accueilli des groupes scolaires, plutôt école secondaire. Et puis, on a fait du kimchi ensemble. On les faisait récolter des petits légumes aussi. Puis, c'est vraiment chouette de les voir juste dans la nature à l'extérieur. Puis, en fait, les jeunes et les moins jeunes aussi, je pense que tout le monde qui vient à la ferme ressort avec des yeux un peu plus pétillants parce que de juste être en contact avec la nature, c'est un contact direct, sans filtre, sans écran, de sentir le soleil, l'air, l'eau, la terre. Je pense qu'à travers aussi, c'est ça, l'agriculture, on nourrit ce besoin de connexion avec la nature qu'on a tous besoin, dont on est souvent plutôt inconscient, donc on ne va pas nourrir nécessairement tous les jours, mais ça fait du bien de le faire. C'est ça, moi je rêve d'un programme scolaire où il y aurait des cours de jardinage obligatoires pour tout le monde là, dès le très jeune âge, pour que cette connexion soit là dès le début.
Je suis tellement d'accord avec toi, surtout comme maman aussi, moi j'enverrais tellement mes enfants là. Comme adulte, je suis en apprentissage. J'ai l'impression que oui, ça doit commencer tout jeune, comme tu dis. Mais merci, c'était vraiment un plaisir de t'avoir aujourd'hui avec nous.
Et oui, puis,
on a hâte de voir quel nouveau projet la ferme Le Rizaine va créer cette année avec l'école d'art et avec tes autres collaborateurs.
Puis, si les gens veulent être tenus au courant, bien sûr, peuvent vous abonner à notre page Facebook, Instagram et aussi à notre infolettre sur notre site web. Au bas de la page, là, on peut s'inscrire à notre infolettre qu'on envoie une fois par mois pour recevoir les événements à la ferme, les marchés à venir, toutes les nouveautés.
Merci beaucoup.
C'était Memory of a Moment de l'album d'Alain Auger, Siluja. Nous poursuivons notre exploration des liens entre l'art, la communauté et l'environnement avec notre prochaine invitée, l'artiste Dominique Paul. J'ai rencontré Dominique à l'École d'art de Sautène lors du lancement de sa monographie « Déclin des animaux ». Ce récent projet de l'artiste, un cri du cœur pour la protection de notre planète, fut conçu avec 150 jeunes.
Ah, bonjour. Mon nom est Dominique Paul. Je suis artiste en art visuel. Ça fait un bout. Et puis, j'ai une pratique qui s'accroche au mur en galerie et j'en ai une autre qui est de la performance, souvent dans l'espace public. Et cette pratique-là, je l'ai développée depuis 2012 en séjournant régulièrement à New York. C'est comme une réaction à la ville là-bas. Voilà, c'est là que j'ai commencé à avoir des termes environnementaux.
Super. Et qu'est-ce qui vous amène à l'École d'art aujourd'hui?
Alors aujourd'hui, je vais présenter une monographie, soit un livre qui présente un projet artistique qui s'intitule « Déclin des animaux ». Alors j'ai fait un projet en 2022 dans une école secondaire qui a un programme en art et j'ai réussi à convaincre les enseignants de faire participer 5 classes pour faire un défilé avec les 150 espèces vulnérables et menacées qui sont sur la liste gouvernementale du Québec. Alors, l'objectif, c'était de les faire connaître d'abord, parce que je suis tombée sur cette liste et je me disais, ça se peut pas. On a des grands espaces. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi? Pourquoi autant d'espèces vulnérables? Et ouais. Je connais pas leur nom. Alors, je me disais, la première étape, peut-être, c'est de les faire connaître. Et puis, au Québec, on a une tradition à la fête nationale d'avoir des défilés qui viennent du défilé de la catholique de la Saint-Jean-Baptiste. Et il y en a presque plus aujourd'hui, mais je me dis, je vais reprendre cette tradition avec une thématique malheureusement contemporaine qui est notre déclin de la biodiversité et la faire connaître. Et alors, chaque enfant, adolescent plutôt, a fait un costume qui incarne une espèce sur la liste. Et alors, par exemple, il y a 33 oiseaux, il y a une trentaine de poissons. Et puis, on a exploré c'est quoi les causes du déclin. J'ai invité un aîné qui est venu présenter parce que lui, il a une perspective. Le changement tout autour de Montréal, qui était plutôt des espaces de campagne, des espaces, des milieux humides qui ont disparu. Alors, c'est ça, on a bien documenté le projet, et puis il y a plein de photos, et puis l'idée, c'est de les faire connaître. Voilà.
Oui, j'ai vu une vidéo de votre défilé, c'était extraordinaire. J'ai l'impression que c'était vraiment une expérience réelle pour les jeunes. Et je sais que vous avez aussi fait du slam, c'est ça, pendant les ateliers, oui.
Oui, c'est ça, parce que la première étape, ce sont des élèves en art, ils sont gênés, ils sont timides, c'est pas des élèves en théâtre. Alors, il a fallu que j'ai fasse sortir de leur coquille pour que certains acceptent de clamer le slam. Alors, le slam, tout simplement, on est allé par groupe du vivant, puis on dit les raisons pourquoi ils sont en déclin, chaque groupe. Et puis, par exemple, les poissons, ben c'est souvent l'agriculture industrielle, puis ce qui se déverse dans les eaux, ça les empoisonne. Ça nous empoisonne aussi dans le détour. Les oiseaux, ben c'est encore l'agriculture industrielle hein, dans le sud du Québec, c'est ça qui se passe. Et puis au nord, ben c'est ça qui se passe parce qu'il n'y a plus de prés, il n'y a plus de champs de fleurs sauvages, tout est intense. Les foins, quand j'étais enfant, on les faisait 2 fois par année. Mm-hmm. Les oiseaux avaient le temps de se reproduire, puis aujourd'hui, c'est 4 fois par été. Alors, on coupe les foins avant que les oiseaux, les oisillons aient le temps d'éclore. Ah, c'est une série de choses, puis au fil des recherches, ben, la forêt boréale, Richard Desjardins a essayé de nous avertir il y a longtemps, mais on n'a pas changé de comportement, puis on la coupe, c'est des forêts matures. Puis c'est la moitié des oiseaux d'Amérique du Nord qui se reproduisent dans la forêt boréale. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? On fait de la pâte et papier, souvent avec ce bois qui est des produits jetables. Alors, à un moment donné, il faut se poser des questions pour essayer de faire des liens. Alors, des liens dans notre consommation, des liens dans notre mode de vie, parce qu'il semble que ce ne sont pas les gouvernements qui vont le faire pour nous.
Oui, donc vous avez cheminé comme artiste pour vraiment maintenant prendre position et vraiment éduquer.
Une forme de sensibilisation, parce que qu'est-ce qu'on peut faire pour artiste? C'est pas moi qui va changer les lois. Par contre, je suis tombée sur un projet récemment qui va être mon projet, qui est une superbe collaboration entre une communauté Innu au nord du Québec, sur la côte nord, en Mingani, et la MRC locale, les deux en collaborant, c'est rare ce type de projet, ils ont réussi à donner des droits à une rivière. C'est la dernière qui n'est pas harnachée, qui n'a pas de barrage. C'est la rivière Magpie ou en Innu, Mutishkao, Chipu. Alors, je trouve ça inspirant.
Oui.
Parce que là, on va dans les droits, ça donne une personnalité juridique. Comme les corporations en ont une. Alors là, peut-être, c'est pas d'égal à égal, mais ça donne des nouvelles armes. Il faut trouver des nouvelles façons de faire. Puis, cette collaboration, on devrait s'inspirer des Autochtones, des Premières Nations du Québec, parce que eux, ils sont connectés à leur environnement. Contrairement à nous, nous, notre problème, c'est qu'on se rend pas compte souvent de nos gestes. Et eux, ils pourraient être nos guides.
C'est vraiment une perspective tellement importante et tellement actuelle. Je suis vraiment très heureuse de parler avec vous aujourd'hui et j'en apprends et ça m'inspire aussi comme artiste. Et donc, je voulais vous remercier d'avoir pris ce moment avec moi aujourd'hui. Et puis, on a très hâte au lancement de votre livre, donc c'est ce soir. Est-ce que vous voudriez nous parler un petit peu de votre livre?
Je vais présenter mon livre. Alors, le livre s'intitule « Déclin des animaux », puis le sous-titre est « Disparaître ». Il est en trois langues parce que j'ai exposé en 2023 au Art Museum of the Americas à Washington, qui est le musée des Amériques. Et évidemment, il y a l'espagnol en Amérique, donc on l'a fait en trois langues. Et je vous dis ça, c'est parce que c'est là que le projet a été présenté en premier, « Déclin des animaux ». Et eux, ils étaient enchantés du projet. Et je me suis dit, il faut que je fasse un texte en espagnol. J'ai eu la chance que Chantal Pombriand m'écrive un texte sur le projet. Et étant donné qu'elle a beaucoup d'expérience en performance aussi, autant qu'en art visuel, elle a su mettre des mots sur l'expérience que j'ai fait vivre aux élèves. Et le projet va être présenté, il a été retenu par le Musée de la Civilisation à Québec. Le livre présente aussi le slam, plusieurs superbes photos qui ont été prises par la page couverture, entre autres, par la vidéaste avec qui je travaille, Liana Paré, et par une photographe qui est retournée en France, Margot Dejeux. Alors, j'ai eu d'excellents collaborateurs. Sur la fabrique culturelle, on trouve le documentaire. Et sur mon site, la vidéo d'art du projet où on slame.
On va maintenant écouter un clip du slam de poésie pour l'environnement que les jeunes ont créé avec Dominique Paul.
Gens du pays, nous avons besoin d'amour. Nous sommes les 150 animaux menacés du Québec.
Nous sommes toujours vivants, mais pas pour longtemps. Nous sommes toujours vivants, mais pas pour longtemps.
Ne tuons pas la beauté du monde. Chaque fleur, chaque arbre que l'on tue revient nous tuer à son tour. Ne tuons pas la beauté du monde. Chaque fleur, chaque arbre que l'on tue revient nous tuer à son tour.
Un arbre prend 100 ans pour devenir un habitat et abriter la biodiversité. Préservons nos forêts, sources d'oxygène et puits de carbone.
5, 6, 7 et 8. gens du pays, nous sommes les poissons, son, son, et nous nageons dans le poison, zon, zon. Gens du pays, nous sommes les poissons, son, son, et nous nageons dans le poison, zon, zon. Pesticides, nous buvons, vont, vont. Pesticides, nous buvons, vont, vont. On ne voit plus le fond, fond, fond. On ne voit plus le fond, fond, fond. Donnez-nous de l'oxygène, de l'oxygène. Donnez-nous de l'oxygène, de l'oxygène.
Gens du pays, nous sommes les amphibiens, bien, bien, bien.
Nous rêvons de zones humides, de zones tampons, pour prévenir les inondations.
Sion.
Gens du pays, nous sommes les tortues.
Su.
Nous rêvons de promenades ininterrompues.
Pu.
Nous rêvons de circuler sur les rivages pour aller pondre nos œufs sans embâche. Laissez-nous passer, nous mangeons les herbes nuisibles et gardons vos lacs propres.
Propre.
Gens du pays, nous sommes les couleuvres.
Veuve.
Nous contrôlons les populations de petits rongeurs et les épidémies d'insectes. Mais avec les pesticides, on n'a plus rien à manger. Le bonheur est dans le pré.
Pré.
Mais où est-il passé?
Si.
Bonjour, gens du pays.
C'était un extrait de Déclin des animaux. La vidéo d'art performative au complet est disponible sur le site web de l'artiste Dominique Paul. Vous écoutez Portrait vivant, une émission de CIDI 99.1 FM et de l'École d'art de Sutton. C'était Entre amis du Sautonnais Alain Auger, son album Siluja, qu'on a découvert en performance l'été dernier à l'École d'art dans le grand espace. Nous rencontrons maintenant Ian Gordon, propriétaire de potager Numain à Sutton. Ian est un agriculteur engagé qui entretient une relation étroite avec l'École d'art. Il nous dévoilera sa vision de l'agriculture comme forme d'art vivante, essentielle pour reconnecter les jeunes générations à la terre et à une alimentation saine et durable. Qu'est-ce qui vous amène ici à l'École d'art?
Ben, c'est la curiosité de voir toutes les expositions diversifiées qui se fait ici, des thèmes abordés autour de l'agroalimentaire, beaucoup à travers l'art, des ateliers d'exploratoire, des sens qui touchent la jeunesse. Moi, j'ai un fils autour de 10 ans maintenant, là. Puis j'essaie de lui permettre de voir d'autres choses puis des événements pertinents. C'est ce qui m'amène ici.
Et vous êtes collaborateur de longue date avec l'École d'art. Est-ce que vous pouvez m'en parler un peu?
Oui, on collabore avec l'École d'art depuis ses débuts, même avant que le projet se concrétise. Anne-Marie, la directrice, m'avait contacté pour essayer de comprendre comment elle pouvait intégrer mieux l'agriculture dans sa mission. Elle me proposait plein d'idées qu'à l'époque, je trouvais farfelu, tellement que c'était grandiose. Puis je voyais pas comment ça pouvait se réaliser. Puis aujourd'hui, ben je suis bouche bée, puis je suis tout le temps émerveillé de ce qu'elle arrive à faire dans ce lieu, avec tous les artisans qui viennent, différents conférenciers, la réalisation du jardin en arrière. Elle m'a montré de quoi elle était capable.
C'est super. Et puis, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de votre ferme, le potager et les Numains? Qu'est-ce qui vous motive à faire ce que vous faites?
Ben nous, tu sais, on est une ferme biologique, on fait de la culture maraîchère sur 5 hectares, un peu moins, 4,9 hectares. Je suis implanté dans la communauté de Sutton depuis 2005, quand je suis arrivé dans la région. Puis, ce qui m'a gardé à Sutton, c'est un esprit de communauté, puis une convivialité, puis des gens avec une pensée alternative. Il y a beaucoup d'artistes aussi à Sutton qui permettent un peu ce foisonnement d'idées-là, puis de penser à côté de la voie. Puis, j'ai vite compris que pour survivre à Sutton, faut être communautaire. Mm-hmm. Parce qu'il y a quand même une forte gentrification. Il y a des règlements littéralement trop vraiment conservateurs. Tandis avec une communauté, on arrive à changer certains paradigmes. On arrive à s'implanter, si tu veux, dans un paysage qui serait pas altermondialiste, sinon, là. Donc, en travaillant avec la communauté, nous autres, on a commencé, on faisait, tu sais, de l'échange légumes travail. Les gens qui avaient moins d'argent pour acheter des paniers, tu sais, on fait des paniers de légumes surtout. Mm-hmm. Ils pouvaient venir à la ferme travailler. Là, c'est juste ces gens-là qui vivaient une expérience à la ferme, en parlaient à leurs autres amis. Puis, tu sais, à un moment donné, on avait une belle petite cohorte de gens qui venaient nous aider bénévolement à la ferme.
Et donc, vous produisez des légumes biologiques sur votre ferme. Ça fait partie des programmes de l'École d'art de nourrir les enfants avec ces légumes-là, de cuisiner, de promouvoir votre ferme aussi.
Ben, tout ce qui est local, pas seulement notre ferme. L'École d'art de Sutton collabore avec plusieurs autres agriculteurs du coin. La première année, tu sais, que l'école a été fondée pour vrai, puis qu'il y a eu des activités, tu sais, il y avait un jardin derrière avec des parcelles provenant de chaque ferme locale qui a été contactée et qui avait accepté de venir, où on avait un légume qui nous représentait ou qu'on avait cultivé ou qu'on trouvait qui valait la peine de faire connaître. Puis c'était chapeauté à l'époque par quelqu'un qui est devenu mon amoureuse puis qui a beaucoup fait en sorte que j'ai resolidifié mon implication avec la ferme. Puis avec l'École d'art, surtout leur volet éducatif où les jeunes apprennent à cultiver un peu dans une certaine mesure, puis à cuisiner avec Parce que la plupart des raisons que j'entends des gens qui prennent pas de légumes frais, c'est qu'ils savent pas les cuisiner. Fait que de commencer avec la jeunesse, je crois que c'est vraiment un très bon moyen de démocratiser les légumes, même si c'est la base.
Oui, des choses qui devraient être évidentes, mais qui sont tellement nécessaires maintenant.
Ouais, et ça, on a été dénaturés.
Ouais.
Toute la chaîne d'approvisionnement alimentaire est faite en usine.
Mm-hmm.
Et des plats prêts à manger, peut-être des conserves. De voir des jeunes qui étaient surpris de voir une carotte apparaître quand je tirais la queue du sol. Tu sais, comme de, ça pousse super, tu sais, c'est, quand on faisait des visites avec des groupes de l'école d'art qui venaient à la ferme, puis on faisait le tour du jardin, puis moi, j'ai juste montré ce qui était évident pour moi, puis je devais voir l'émerveillement, j'étais comme, OK, on a une grosse mission d'éducation. Hein. Mm.
Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage au cœur des jardins et des expositions botaniques de l'École d'art de Sutton. À travers les regards croisés de nos invités, nous avons pu apprécier combien l'art et la nature, lorsqu'ils se rencontrent, deviennent une source inépuisable d'inspiration, d'apprentissage et d'épanouissement communautaire. Le site de l'École d'art est magnifique et son jardin, un site de rencontres, d'échanges culturels et artistiques. Et n'oublions pas, bien sûr, la rivière qui incite d'exploration et d'inspiration artistique pour les enfants. L'été dernier, dans le jardin, j'ai eu l'occasion comme artiste de présenter un camp sur le thème de la rivière. Donc, on a exploré la rivière et on a fait des explorations de la nature. On a fait beaucoup de dessins d'observation et on a aussi exploré le médium de l'eau de toute façon. Que ce soit des marbrures, des peintures inspirées par les gouttes d'eau. On a créé des bateaux. C'était vraiment une belle expérience. On a aussi fait des... On a trouvé des pigments dans la rivière. On a créé de la teinture. Voilà Aimé qui a participé au camp, qui va s'exprimer un peu au sujet de son expérience.
Je m'appelle Aimé Péloquin et j'ai 12 ans. J'étais dans le camp Rivière, puis on a fait beaucoup d'œuvres collectives. On a fait des marbrés à l'eau, ouais. Ça nous a pris peu de temps, mais on en a fait beaucoup, puis c'est vraiment beau le résultat. On a fait aussi une grande murale avec des couleurs du vert, du bleu, et ça fait un peu comme des splashes quand tu lances une roche dans l'eau ou quand tu sautes dans l'eau. Donc, ce serait vraiment beau. On a fait sinon des bateaux, mais ça c'est pas collectif, mais sinon ça aussi c'était vraiment le fun à faire. On a fait nous-mêmes nos couleurs de peinture. On a créé de la peinture avec des roches. On a fait ça, ouais, ensemble. On a cherché les roches. On a gratté les autres roches. Ça nous a donné des belles couleurs comme du vert, du brun, du noir à peu près. Mmh. C'est pas mal ça.
Restez à l'écoute de Portraits vivants pour poursuivre la découverte de celles et ceux qui font vivre l'art sous toutes ses formes dans notre région.
Ce projet est rendu possible par le gouvernement du Canada ainsi que le Fonds canadien de la radio communautaire.